Très bien. Merci, James. Quelle introduction. Comment rebondir après une telle introduction? Bon, je vais essayer. Merci à James, merci à ceux qui m'ont invité à parler ce soir. On m'a dit, avec presque un mot d'excuse, hein, Philippe Bronstein m'a dit, on ne peut que t'offrir la chair parce qu'il y aura du monde, c'est un peu encombré. Est-ce que ça te gêne pas? Je sais par expérience, pour avoir déjà prêché, si les pasteurs me le pardonnent, ou parler en chair, que ça n'est pas facile. Ma première expérience, c'était dans le petit temple de Vabre, pas de Vabre, de Bassignac, à côté de Vabre dans le Tarn, où on est presque sous le toit, et on se sent tellement seul, très au-dessus. Alors je dis toujours que c'est l'occasion de dominer enfin son sujet, mais quelquefois on le domine de trop et on n'est pas à l'aise. Là, je trouve que c'est plutôt sympathique, et donc je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Tout à l'heure, on a parlé de commémoration, pour un méridional, pour un Cévenol. J'avoue que c'est pas le bicentenaire de l'oratoire qui était la date de 2011. C'était soit le tricentenaire de la naissance de Marie Durand. Je regrette d'ailleurs de n'avoir pas pu me rendre à l'invitation au boucher de Prenles, parce que j'aurais fait comme ça les trois centenaires de l'année. Mais j'ai eu la chance, tu l'as rappelé tout à l'heure, et je crois que Denis Carbonnier est là, et Jean-Hugues est là aussi. J'ai eu la chance donc d'être invité avec d'autres à parler au Musée du Désert pour le centenaire du Musée du Désert que vous connaissez tous. L'émotion d'être ici, outre le public, c'est vrai, tu viens de le rappeler, c'est de mettre ses pas et sa voix dans les pas et la voix de grands noms. Et j'ai négocié, mais j'ai échoué, hein, avec les gens qui m'ont invité, pour ne pas faire la conférence qu'on m'a invité à faire, que je vais faire, mais pour faire une autre conférence sur l'oratoire des années 40. Parce que j'ai tout découvert. Pour un historien que j'étais et que je croyais être du protestantisme français des années 40, il y avait de très belles pages. Bon, je commencerai par le Chambon, pour pas commencer par les Cévennes, par Dieulfi, etc. Et je ne savais pas grand-chose de ce qui s'est fait à Paris. Et j'ai découvert, en préparant le chapitre pour le livre collectif, j'ai découvert la grandeur de ce qui s'est dit, car c'est vraiment une parole avant d'être des gestes, de ce qui s'est dit dans cette chaire, avec deux hommes essentiellement, tu les as rappelés, le pasteur Vergara et le pasteur André Numa Bertrand, dont j'ai eu l'honneur de bien connaître dans ces derniers jours la fille, qui elle-même était la veuve d'un autre grand pasteur, Cévenol, Henri Manin. Et Henri Manin est juste pour ce qu'il a fait pour les Juifs dans le camp des Mille. André Numa Bertrand mériterait 10 fois au moins autant que le numéro 1, le pasteur Bugner, d'être juste des nations pour ce qu'il a fait par la parole. Je rappelle que l'année 1942, qui va être commémorée l'année prochaine par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, à très haut niveau, puisque ça sera le 70e anniversaire des rafles, celle du Veldiv, puis celle de fin août dans la zone non occupée. Et je vous rassure, je vais vraiment faire la conférence prévue. Hein. Je m'offre juste 2 minutes sur l'autre conférence. L'année 42, je dirais que deux chaires ont retenti avec un éclat inoubliable, y compris dans l'histoire des relations entre le christianisme et le judaïsme. C'est la chaire du Musée du Désert, le 6 septembre 42, et là c'est le pasteur Bugner. Mais le 7 juin 42, c'est celle de l'oratoire, et le 7 juin 42, c'est le dimanche, le premier dimanche, où le port de l'étoile jaune est rendu obligatoire pour les Juifs de la zone occupée par ordonnance allemande. Vichy n'est pas en cause. Et dans cette chaire, il y a le pasteur Bertrand. On vient de republier son sermon, et dans son sermon, il y a toute une page où il dénonce publiquement cette mesure et où il apporte le soutien public de l'Église chrétienne et des paroissiens aux Juifs désormais marqués par le port de l'étoile jaune. Voilà. Et puis un troisième nom à rappeler sur ces années 40 de l'oratoire. Tout à l'heure, vous avez signalé le centenaire de la Clairière. C'est Marcel Guillemot. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Marcel Guillemot qui était la patronne de la Clairière et qui, avec le pasteur Vergara, a monté un coup très audacieux avec des paroissiennes, notamment Béchard, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de l'oratoire, pour retirer des foyers juifs dans lesquels les orphelins avaient été placés, les parents étaient déportés, une 50aine ou une 60aine d'enfants et d'adolescents juifs qui ont été sortis illégalement, cachés la nuit à la clairière et chez les paroissiens, et dans les jours qui ont suivi, ont été exfiltrés en province, notamment en Normandie, où Vergara, qui était le gendre du pasteur Roberti, autre très grand nom de l'oratoire, Roberti, l'ami de Peggy, Vergara avait des attaches en Normandie, et ces juifs, ces jeunes juifs, ont été sauvés, ayant été convoyés par des éclaireuses de l'oratoire. Donc c'est une très belle page, c'est une page d'une église protestante française qui aurait pu être une église confessante, au sens allemand du terme, c'est-à-dire qui confesse publiquement sa foi face au pouvoir du temps. Le choix du numéro 1, Bugner, a été d'une négociation au sommet. Le choix de Bertrand de Vergara a été d'une parole confessante, et c'est une des belles pages de l'histoire de la chaire réformée en France et de l'histoire tout court, et du protestantisme et de la France. Alors maintenant, j'en viens donc au thème traité. Plus large que Napoléon et les protestants, je vous ai proposé les protestants, le pouvoir et la France de 1787 à 1815. Pourquoi ces deux dates un peu décalées? Ce sont deux dates d'échec pour les protestants. 1787, contrairement à ce que l'on croit volontiers, est une demi-réussite. Et James, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. En 1787, Louis XVI, certes, a donné un état civil aux protestants, mais il n'a pas donné l'accès libre aux fonctions publiques. Il était toujours interdit pour un protestant d'être enseignant, et ça a été rappelé tout à l'heure. Vous savez combien les protestants aiment l'enseignement. Ils en étaient privés par une sorte de statut, hein, entre guillemets, comme Vichy, lui, l'imposera aux Juifs en 40 et 41. Et puis, il n'y a pas de liberté du culte. Ce qui fait que Malesherbes a écrit que, je ne veux pas trop insister sur le parallèle, mais que les Juifs en France, en 1787, jouissaient de plus de liberté que les protestants, puisqu'il y avait à Bordeaux et à Paris des synagogues en activité, qui n'étaient pas clandestines, qui étaient discrètes, hein, qui étaient cachées derrière des façades, mais qui étaient reconnues par l'État, alors que le culte restait interdit jusqu'en 1789. Donc cet édit que nous appelons improprement de tolérance, qui est un édit en fait de règlement administratif, qui rend un État civil, qui met fin à une fiction séculaire, la fiction sur laquelle il n'y avait pas de protestants en France, cet édit a été reçu par les protestants comme un demi-échec. Et je vous dirai, dans un instant, parce qu'il y a des phrases extrêmement, je dirais, belles et coupables, écrites par cet homme, je vous dirai que l'un de ses principaux négociateurs, Rabaut Saint-Étienne, a dû passer la fin de l'année 87 et le début de l'année 88 à consoler les protestants déçus par ce demi-cadeau fait par la monarchie. Et puis 1815, pour les napoléoniens, ceux qui aiment la légende, je crois que c'est une année noire, 1815, mais pour l'histoire des protestants, 1815, c'est ce dernier, entre guillemets, pogrom, dont je trouve qu'on n'a pas suffisamment pris la mesure, y compris parce que les archives ne sont pas faciles à trouver, la célèbre Terreur Blanche, qui frappe les villes du Midi, depuis Nîmes et Uzès, qui sont les épicentres, mais jusqu'au Mas d'Asile en Ariège, Saverdun, Montauban, Castres, donc une large zone. Et dans ces deux dates, vous voyez, qui sont, et l'une et l'autre un peu bancales, eh bien s'inscrit une première séquence dans l'histoire politique des protestants français. Je vous rassure, je ne vais pas rester dans cette chaire où l'on est fort bien d'ailleurs jusqu'à 23 ou 24 heures, mais je ne vais pas donc vous raconter, ça n'a pas de sens, l'histoire de la Révolution française ou l'histoire de l'Empire vue sous l'angle protestant. Je vais simplement essayer de repérer un certain nombre de lignes directrices en essayant de rappeler des choses connues et puis de temps en temps de mettre l'accent sur des choses peut-être moins connues avec trois, j'annonce le plan, je suis enseignant, je ne sais pas si les pasteurs annoncent le plan de leur sermon, mais les enseignants le font en trois parties comme il se doit. L'édit de 1787, vous allez voir pourquoi, quelques grands traits de l'histoire des protestants sous la Révolution, et puis j'insisterai un peu plus sur le rapport, les rapports entre Napoléon et les protestants, et entre les protestants et Napoléon. D'abord donc quelques mots sur l'édit de dit improprement, donc de tolérance de 1787. Un mot pour vous faire plaisir, parce que je sais que les protestants aiment se faire plaisir, à juste titre, en revenant sur certains de leurs malheurs et sur les leçons qu'on peut en tirer. Malaiser, donc le ministre qui a voulu l'édit, dans des textes techniques, mais très importants, qui s'appellent « Mémoire sur le mariage des protestants », Malaiser explique qu'il s'agit de réparer, je cite, « le tort irréparable qu'a fait au commerce, aux manufactures et à la population le grand refuge, le grand exil des protestants en 1685. Et là, on est dans ce lieu commun qui a empoisonné la monarchie française, la faute contre la nation, contre la richesse, contre le génie de la nation, la faute commise en 1685, dont, vous le savez, la première voix qui soit élevée pour la dénoncer, c'est Vauban, sous même Louis XIV. Et Malaiser, donc, s'efforce, avec Rabault-Saint-Étienne et Lafayette, d'offrir un nouvel édit aux protestants. C'est donc l'édit de 1787. La seule chose, j'essaie de ne pas être trop didactique, prof, et de ne pas me laisser trop passionner, la seule chose intéressante à dire de cet édit, c'est que ça a été écrit noir sur blanc par Malesherbes. Malesherbes avait dit au roi Louis XVI, vous ne direz qu'une fois qu'il s'agit de protestants, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais le reste du temps, vous ne direz pas dans votre édit, sire, protestant, vous direz, et c'est très négatif, mais une négativité qui a du sens, vous direz, les protestants qui ne sont pas les Français qui ne sont pas catholiques, les Français qui ne font pas profession de la religion catholique, apostolique et romaine. Donc, une fois on a dit les protestants, et 15 autres fois, il y a des périphrases un peu lourdes. Quel est l'intérêt? Si vous êtes un protestant aigri, vous direz, voyez, on en est encore au moment où on ne peut définir que négativement. Le protestant, c'est celui qui n'est pas catholique, celui qui n'a pas la chance d'être normalement catholique. Mais la visée de Malesherbes, c'était de permettre à Louis XVI de faire un texte qui donne donc un état civil pour l'ensemble des non-catholiques. C'est-à-dire, c'est dans le texte, les protestants de l'intérieur, les luthériens, les anabaptistes, les juifs, et Malesherbes imagine même qu'un jour viendront peut-être travailler en France, il cite, des hindous et des chinois. Et il dit, lorsque ces gens-là se marieront, auront des enfants, eux qui n'ont pas de baptême, lorsqu'ils mourront, il faut qu'on ait un texte valable pour tous. L'édit de 87, c'est un édit qui invente la laïcité, la neutralité, pour tous sauf les catholiques. Et donc il est à la fois très moderne, mais immédiatement archaïque, dès lors que la Révolution, elle, va vers une laïcité complète, c'est la déclaration, etc. Et puis surtout, je voudrais, pour flatter en vous, parce que je crois qu'il y a des protestants dans la salle, il n'y a pas que des protestants, mais je crois qu'il y en a, pour flatter en vous une forme d'orgueil minoritaire bien connu, vous lire, c'est trop long, une longue lettre qui a été éditée il y a longtemps, mais une lettre qui à l'époque n'était pas destinée à être rendue publique, donc où l'auteur peut dire plus de choses que si elle était publique, la lettre par laquelle Rabault-Saint-Étienne écrit aux dirigeants du protestantisme Bordeaux, en l'occurrence, pour les consoler de cet édit 87 qui reste au milieu du gué et qui ne leur a pas donné la liberté de culte. Et voici ce qu'il dit dans cette lettre de consolation. Je lis quelques extraits. Nous sommes, ça commence ainsi, nous voyons, incorporés avec la nation. Bien des gens, de l'opinion desquels je fais grand cas, pensent que le protestantisme influera sur les opinions morales. Déjà, l'on nous accorde une supériorité morale et des opinions plus saines. On sait que c'est chez nous qu'est le germe de toutes les vérités politiques et économiques qui ont été publiées dans ces derniers temps. Il fallait une occasion pour les montrer, et en rentrant dans la nation au moment où elle se constitue pour devenir politique et morale, y pressant 89, nous nous y présentons d'une manière avantageuse. Et puis, la plus belle formule, d'un orgueil, je trouve, incroyable, typiquement huguenot, français, peut-être pas luthérien, mais huguenot. Il faut s'accorder sur une manière grande et prévoyante de nous gouverner, de nous instruire et, je cite, nous préparer à devenir les instituteurs de la nation. Voilà comment, alors que le culte n'est toujours pas rétabli, parle Rabault-Saint-Étienne, qui, vous le savez, va, je dirais, réaliser ses promesses, puisque 18 mois plus tard, il est l'un des leaders de la Révolution. Voilà, il faut étudier nos rapports avec le siècle et les progrès de la raison que les protestants seuls peuvent accélérer, nous assurer enfin, et j'en termine, une supériorité honorable qu'il sera impossible de nous ravir et qui nous vaudra, écoutez la suite, l'avantage d'avoir perfectionné notre siècle. Voilà, donc Rabault-Saint-Étienne, vous voyez comment en quelques mois, on passe du désert au palais, pas encore de la République, mais bientôt, et de l'Empire, et avec quel sentiment de, il faut le dire, de supériorité, un des porte-parole de cette minorité se sent déjà dans la modernité, dans le nouveau cours de la nation, qui est à la fois un cours national, mais qui semble en quelque sorte l'émanation de la réforme. Voilà, si je puis me permettre une parenthèse politique presque actuelle, c'est d'une certaine façon ce que le président de la République est allé dire après sa visite du musée du désert à Alès, et c'est ce qu'a dit un homme qui n'est pas Nicolas Sarkozy, je vous le cite, « Le protestantisme a été dans l'histoire moderne la première forme de la liberté, notre évangile politique, il est aussi le vôtre. » Et ça, c'était Jules Ferry s'adressant aux protestants réunis en novembre 1979 pour l'inauguration de la faculté de théologie protestante de Paris. Voilà, donc ce que l'on pouvait dire, voyez, les protestants vont entrer en révolution à suivre Rabault-Saint-Étienne avec une très haute idée de leur mission nationale, perfectionner leur siècle, devenir les instituteurs de la nation. Alors j'en arrive à ma deuxième partie, les grands traits d'une histoire protestante de la Révolution française et d'une histoire du protestantisme dans la Révolution. Je passe très vite sur l'article 10, vous savez, celui dont on dit toujours, vous connaissez, hein, que le père en est Rabault-Saint-Étienne, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Mais il a été montré depuis longtemps que cet article est aussi une demi-victoire pour les protestants et les non-catholiques, puisque Rabault-Saint-Étienne voulait s'arrêter à « nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, tout court ». Mais on a fait ajouter, et ce sont des députés d'ailleurs, des prêtres catholiques qui ont fait rajouter « même religieuses », ce qui prouve que la Révolution était prête à tout, prête à tout donner, mais que donner la liberté religieuse, c'était un peu plus difficile que donner les autres libertés, hein, même religieuses. Et puis, à la suite, la deuxième partie de la phrase, dans la mesure où elle ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Et ça, c'est in cauda veninum, c'est le, si vous voulez, la portion de phrase qui pourra, si on le veut, interdire la liberté qu'on donne à la première. Si vous considérez que tel culte gêne l'ordre public, par exemple, faut-il accepter de tendre sa maison lorsqu'on est protestant, vous savez, pour les processions de la fête de Dieu, faut-il accepter ou pas la procession? La seconde partie de l'article 10 est beaucoup moins libérale et libertaire que n'est la première partie. Et donc, ne prêtons pas trop à cet article 10, qui est une demi-victoire, une demi-défaite de la vraie liberté, et en particulier de la liberté de culte, dont on sait combien elle est différente de la liberté de conscience. Être libre dans sa conscience, c'est être libre seul chez soi. Être libre dans son culte, c'est être libre collectivement, dans des lieux faits pour ça. Et c'est tout de suite un autre rapport à l'espace public que la simple liberté de conscience. Non, de la Révolution, je voudrais retenir quatre points, sans être trop long. Premier point, et peut-être que parmi vous, il y a des descendants, des bénéficiaires de cet aspect de la Révolution, que je trouve trop peu connus du grand public, cultivé. Alors vous, je sais que vous êtes du grand public très cultivé, peut-être que vous connaissez ce que je vais vous dire, mais je trouve qu'on n'a pas suffisamment vu la modernité de ce geste. Vous le savez sans doute ici, en décembre 1790, la Révolution a voté une loi dont on dirait aujourd'hui, à l'époque on ne le disait pas comme ça, qu'elle est sans doute l'un des premiers exemples modernes d'une déclaration publique de repentance, avec volonté de réparation. Vous savez que c'est la loi qui rend aux héritiers des réfugiés, pour la foi, leurs biens. Et surtout, c'est la loi qui, contre toute la tradition française du droit de la nationalité, qui est un droit du sol et pas du sang. Or, la Révolution, là, invente une portion de droit du sang pour les Huguenots, puisqu'elle dit à tous les Européens, éventuellement les Américains, tous ceux qui ont fui la France pour raisons religieuses, et qui voudraient revenir en France, retrouveront immédiatement la nationalité française. Et ce ne sont pas seulement les réfugiés de 85, la révocation, mais ce sont aussi les réfugiés des années 1560. Et ça s'est trouvé, puisque l'un des cas les plus célèbres de bénéficiaires de la loi, c'est Benjamin Constant. Et Constant, lui, s'il doit sa nationalité française alors qu'il était suisse, il la doit à son ancêtre qui est parti au moment de la Saint-Barthélemy. Donc, voyez, la longue mémoire de réparation. Alors, évidemment, c'est facile. C'est la révolution qui répare la faute commise par la monarchie catholique. C'est toujours plus facile de réparer les fautes des autres. De même que la France, en 95, la République, par la voix de Jacques Chirac, a réparé, a fait repentance publique pour la faute commise par Vichy à l'encontre des Juifs, mais en assumant le fait que cette faute n'était pas la faute d'un régime en quelque sorte étanche avec l'histoire de France, mais qu'elle était la faute de la France tout entière. Et c'est ce que fait la Révolution. Et vous savez, je trouve que c'est très moderne, cette loi du retour. Dans Benjamin Constant, on a des textes de lui, attendait le retour de milliers, voire de dizaines de milliers d'Allemands d'origine huguenote. En fait, il est rentré quelques dizaines de personnes, mais ce sont évidemment, ou peut-être quelques centaines, ce sont des membres des élites européennes, et j'ai cité déjà Benjamin Constant. Vous savez tous sans doute que l'une des plus grandes familles, ne serait-ce que par le nombre de prix Nobel, puisqu'elle en a deux, même si l'un des deux, officiellement le bénéficiaire, est de nationalité italienne, je crois. C'est la famille Monod, bien sûr, qui est déjà rentré physiquement en France, mais qui rentre dans la nationalité française en mettant à profit cette loi de réparation qui est l'un, voyez, à l'aurore de la Révolution, l'un des beaux gestes politiques modernes qui a toute une descendance des lois du retour, des repentances publiques. Vous savez combien la fin du XXe siècle en a été pleine. La France a montré à la Révolution le chemin. Deuxième aspect, je passe plus vite, tellement c'est connu, je vais y réinsister un peu pour l'Empire, c'est la participation inouïe dans l'histoire française depuis Sully, si vous voulez, un peu après, des élites protestantes au pouvoir moderne. Bon, pas grand-chose à en dire. Oui, il y a désormais, et notamment un certain nombre de pasteurs qui deviennent députés, vous savez, la phrase célèbre, je crois qu'elle est vraie. Elle est trop belle pour être vraie, mais elle n'est pas apocryphe, c'est Rabault-Saint-Étienne, encore lui, je vais bientôt l'abandonner, d'abord parce que la Révolution va aussi l'abandonner et le condamner. Rabault-Saint-Étienne, lorsqu'il est élu président dans sa tête de la Convention nationale, donc chef de l'État, mais c'est des présidences qui durent 15 jours, hein, ça tourne. Enfin, pendant 15 jours, il est le premier homme de l'État français, et il écrit à son père, le vieux pasteur Rabault, pasteur du désert, en lui disant « Monsieur, le président de l'Assemblée est à vos pieds ». Et c'était comme une sorte de revanche de l'histoire, bien sûr. Revanche de l'histoire, cette première participation des élites pastorales et au-delà, au pouvoir moderne. Revanche qui a été très fortement vécue, aussi bien par les protestants que par un certain secteur de l'opinion catholique qui l'ont mal vécu, et j'y reviendrai. Le drame de ces élites protestantes, révolutionnaires, c'est qu'elles ont été, je crois que c'est presque une loi de l'histoire, elles ont été tournées sur leur gauche. C'est-à-dire qu'au début de la Révolution, elles sont la gauche, et puis elles trouvent plus à gauche qu'elles. Moi, je les compare volontiers à ces malheureux mencheviques. Vous vous souvenez des mencheviques et des bolcheviques? Bon, ben voilà, les protestants français ont été les mencheviques de la Révolution française. En 89, ils étaient l'aile avancée de la Révolution. En 93, ils sont, vous le savez, massivement condamnés, accusés de fédéralisme, je passe. Et beaucoup d'entre eux, ils perdent leur vie, des élites au niveau national. Rabault-Saint-Étienne est guillotiné. Au niveau local, et il est important, hein, pour comprendre l'évolution politique par la suite de Guizot, dont il a déjà été question ici, il est important de se souvenir que le père de Guizot, homme politique nîmois, a été guillotiné. Et le plus terrible, c'est qu'il a été guillotiné par un tribunal révolutionnaire dont le président était le beau-père de Guizot, Servière, qui était un Cévenol du Mont-Lozère. Et la leçon à tirer de ce malheur des élites protestantes en 93, c'est une leçon, je passe vite, mais j'y avais travaillé pour un livre antérieur, qui semblerait montrer, sans jouer sur les mots, c'est dommage qu'il y ait cette ambiguïté sur le mot réformateur, ces protestants de la Révolution française, mais de la Troisième République aussi, et peut-être des années 1980 de notre génération, ne sont pas des révolutionnaires, mais sont des réformateurs. Sans jouer donc sur le mot réforme. Et il y a quelque chose, il y a une sorte de ligne rouge que, sauf exception, il y en a, mais que, sauf exception, il n'arrive pas à franchir, c'est la ligne qui sépare la révolution réformatrice, créatrice, de la révolution, comment dirais-je, qui se sacralise, qui devient une sorte d'icône, sans parler de totalitarisme. Et voyez, moi je ferai volontiers une famille d'esprit, je mettrai dans la même famille d'esprit, je vais citer des gens plus proches de nous, Rabault-Saint-Étienne, qui ne peut pas accepter la terreur, parce que la terreur est au-delà de la raison. Et puis plus proche de nous, j'espère ne pas aller trop vite, je vais un peu vite hein, pour pas être trop long ce soir, André Philippe a écrit des choses très fortes. André Philippe a perdu le pouvoir à la SFIO parce qu'il n'a pas voulu adhérer, comment dirais-je, au dogme, mais je le dis à dessein, hein. Il n'a pas voulu adhérer à l'évangile marxiste. Bilan, c'est Guy Mollet, c'est Guy Mollet, c'est Guy, hein. On révise ensemble. Oui, c'est pour voir si vous êtes attentif. C'est Guy Mollet. C'est Guy Mollet qui a pris le pouvoir à la SFIO au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il a pris contre deux compétiteurs qui avaient eu plus de voix à titre personnel, mais qui avaient tenu un discours réformateur et pas marxiste dur. L'un était juif, Mayer, l'autre était protestant, Philippe. Et c'est le catholique déculturé, visage banal de l'évolution de toute une série de personnalités de gauche en France, qui, sur le marxisme, a pris le pouvoir pour faire d'ailleurs une SFIO qui était tout, notamment dans ses choix en Algérie, tout sauf marxiste. C'est ensuite, si vous voulez, la grande querelle. Hein. J'avais travaillé sur ça, je passe vite, hein, je ne veux pas être inutilement polémique. D'ailleurs, ce n'est pas la polémique, c'est de l'analyse des tempéraments et des cultures politiques et des racines religieuses des cultures politiques, la grande querelle, le grand malentendu entre Michel Rocard et François Mitterrand. Et puis aussi, il y a de très belles phrases d'un personnage dont on se demande ce qu'il est allé faire, là où il y est allé. C'est André Gide, avec, vous le savez, son compagnonnage de route, sa coquetterie avec le PC. Mais à un moment, je cite de mémoire, Gide a une très belle formule, il dit « prendre parti, c'est le parti qui vous prend ». C'est plus fort qu'un jeu de mots, hein. Et Gide n'a pas voulu prendre parti au Parti communiste. Et je crois qu'il y a là une sorte de retrait, de désappétit, de défense, qui n'est pas strictement et uniquement protestante. On le trouve dans d'autres carrières d'hommes politiques juifs qui n'ont jamais eu la carrière nationale parce que, en particulier, ils n'ont pas pu, c'est le cas de Mendès France, c'est très net, ils n'ont pas voulu ou pas pu adhérer à ce que signifie la présidence de la République dans le modèle de la Ve République. Vous savez, on le dit toujours, cette monarchie républicaine qui est baignée d'une forme de sacré, même si l'onction, en l'occurrence, c'est pas la sainte onction, mais c'est celle du suffrage universel, ça ne correspond pas fondamentalement à la culture de ces héritiers, de ces deux minorités, et des carrières comme ça se sont brisées, et en 93, il y a eu, à l'évidence, donc, une rupture entre une certaine révolution et le protestantisme. Dernière chose à dire, parce que j'ai encore peu prononcé le nom de Napoléon. Il y a des gens qui aiment la légende de Napoléon dans la salle, j'en suis sûr. Mais je vais y venir à Napoléon. Moi, il m'a jamais fait vibrer, mais je vais quand même vibrer avec vous autour de Napoléon. Je vais vous dire pourquoi j'aime pas Napoléon, parce qu'il a trahi Nîmes sur un point fondamental que les Nîmois ne lui pardonneront jamais. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais il a bien servi l'oratoire. Dernière chose à dire de cette révolution, ça m'a frappé, c'est la naissance, très vite, dès 1790-1791, la naissance d'une maladie démocratique qui va marquer la France au moins jusqu'aux années 40, l'antiprotestantisme, et bien sûr, c'est vrai dans les années 90, cet antiprotestantisme, il est indissociable de l'antisémitisme. Alors, je parle uniquement de l'antiprotestantisme, non plus l'antiprotestantisme à l'ancienne, c'est-à-dire fondamentalement, malgré tout, religieux. Mais là, il s'agit d'un antiprotestantisme nouveau, profondément politique, un peu, si vous voulez, comme on est passé en Europe de l'antijudaïsme religieux des chrétiens traditionnels à l'antisémitisme politique, économique, national, racial. C'est un peu de cet ordre-là aussi. La haine contre les protestants change de nature, et elle change de nature parce que certains secteurs du monde catholique, je ne dis pas les catholiques en général. J'ai dit, certains secteurs, c'est très net dans le Midi, parce que dans le Midi, c'est la frontière. Et dans le Midi, l'ennemi protestant, il est en face. Et sous la Révolution, il est au pouvoir. Il est physiquement au pouvoir. Un exemple, j'ai encore ici à pratiquement ne pas parler des Cévennes. Tu as noté, Jean-Hugues, j'ai fait un bel effort. Mais là, j'en dis un mot. L'accusateur public du tribunal révolutionnaire de la Lozère, c'est-à-dire l'homme qui envoie à la guillotine les gens, c'est un notaire protestant de Florac, de la Pierre, et en 1789, en mars ou en mai, lui n'avait pas vu venir la Révolution. Il écrit à Jefferson en lui disant « Je suis notaire, je suis protestant, je n'ai pas d'avenir dans ce pays catholique qui ne donne pas d'avenir aux protestants, je cherche à émigrer dans un pays de la liberté de vôtre. » Et trois mois après, il renonce à partir. Il aurait été le dernier réfugié huguenot de l'histoire. Il renonce à partir, il devient accusateur public du tribunal révolutionnaire. Et en 1793, 40 paysans catholiques des Gorges du Tarn qui partent rejoindre une armée anti-révolutionnaire sont piégés sur le Cosméjean, qui est au patrimoine de l'UNESCO. Ça le rapproche des Cévennes. Je n'en dirai rien ce soir sans doute. Ils sont piégés par un chef de troupes nationales, dont républicain et protestant, et qui est de la commune de Saint-Jean-d'Arpin, qui leur fait croire qu'il est lui-même un anti-révolutionnaire. Ils tombent dans le piège, ils sont arrêtés, ils sont guillotinés, 40, ils étaient de la Malène dans les Gorges du Tarn, ils sont guillotinés un jour de foire en juin 1793 sur la place publique de Florac. Et l'homme qui les envoyait à la mort, c'est un protestant floracois. Donc il faut imaginer, lorsque les gens vivent face à face, côte à côte, dans ce huis clos des terres de frontières, il faut imaginer les regards qui changent, évidemment, sur ceux qui étaient les victimes d'hier, les protestants au désert, et qui sont les maîtres, aujourd'hui, d'une révolution laïque et anti-catholique dans certains de ses aspects. Et donc, il surgit un antiprotestantisme moderne qui va, vous le savez, pousser jusque à la première moitié du XXe siècle et jusqu'à l'action française de Maurras, je passe. Je voudrais juste dire, ça c'est connu des historiens, qu'il a été publié à Nîmes d'ailleurs, mais ensuite répandu à Paris. Il a été publié contre les frères Rabaud, donc Rabaud Saint-Étienne et ses deux frères, qui étaient aussi hommes politiques, un faux prétendant avoir percé le complot secret des protestants qu'allait chercher l'argent chez les juifs de la carrière de Carpentras et de Cavaillon. Un complot secret pour prendre le pouvoir en France, le pouvoir perdu au XVIe siècle, sous le couvert de la Révolution. Et vous savez, ces faux qui prétendent dénoncer un plan secret de conquête du monde par une minorité, c'est exactement ce que, au début du XXe siècle, avec un succès, alors là pour le coup planétaire, des antisémites russes et français à Paris fabriqueront, et c'est les célèbres protocoles des sages de Sion dont vous avez entendu parler. Et le même principe marche déjà à échelle plus réduite contre les protestants. Voilà donc ce que l'on pouvait retenir, vous voyez, d'une révolution qui n'a pas été un fleuve tranquille, pas plus pour les protestants que pour les catholiques. Ils l'ont servi fondamentalement, elle les a servis. Ils en ont payé d'une certaine manière le prix, à la fois dans les excès de la terreur et puis dans la naissance de cet antiprotestantisme moderne, politique, qui va donc durer au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale. J'en viens maintenant à Napoléon, c'est-à-dire, vous le savez, l'homme qui, à la fois, sauvegarde et termine la Révolution française. Bon, voilà, d'un mot, si vous avez un fils qui est en Cagne et à qui on demande en col de dire ce qu'a été l'œuvre de Napoléon, c'est l'homme qui, à la fois, a achevé la Révolution, aux deux sens du mot achevé, c'est-à-dire tué et en même temps couronné, en garder ce qu'il faut, mais en même temps faire savoir à qui de droit, et d'abord aux catholiques, que le temps révolutionnaire est terminé. Alors j'ai là aussi 5 ou 6 thèmes à vous traiter, et puis j'en arriverai donc à ce qui est le meilleur moment d'un sermon, la conclusion, sauf quand l'offrande le suit, je crois. Ici il n'y aura pas de don joyeux, je crois, ce soir. Sur Napoléon et les protestants, je ne sais pas s'il faut le prendre au sérieux, mais il y a des textes, à la fois en 1810 et puis dans le mémorial de Sainte-Hélène, lorsque évidemment Napoléon n'est plus au pouvoir, des textes dans lesquels, je vous le signale, Daniel Robert ne les prenait pas au sérieux. Moi, je les trouve, enfin, je suis prêt à les prendre un tout petit peu plus au sérieux, dans lesquels il annonce qu'il s'est demandé, au début de son règne, s'il n'allait pas se convertir au protestantisme et faire passer la France au protestantisme. Je vous lis du Napoléon dans le texte, hein, ce sera plus précis, c'est tiré du mémorial de Sainte-Hélène. Oui, ça c'est une déclaration faite en 1810 devant des catholiques à Bréda. Si je n'avais pas trouvé dans l'Église gallicane et dans la doctrine de Benoît des maximes analogues aux miennes, et si le concordat n'avait pas été accepté, je me serais fait protestant, et 30 millions de Français, pardon, auraient suivi le lendemain mon exemple. Donc une conversion pré-politique. Et puis, au moment du mémorial de Sainte-Hélène, ça c'est pour vous donner des regrets, si vous faites partie de ceux qui auraient aimé que la France devint protestante, voici ce que dit Napoléon. Il est sûr qu'au désordre auquel je succédais, que sur les ruines où je me trouvais placé, la Révolution, je pouvais choisir entre le catholicisme et le protestantisme. Et il est vrai de dire encore que les dispositions du moment poussaient toutes à celui-ci, le protestantisme. Mais outre, bon, le Corse Napoléon va dire un mot, outre que je tenais réellement à ma religion natale, j'avais les plus hauts motifs pour me décider. Alors maintenant, soyez déçus, en proclamant le protestantisme, qu'eusse-je obtenu, j'aurais créé en France deux grands partis à peu près égaux, lorsque je voulais qu'il n'y en eût plus du tout. J'aurais ramené la fureur des querelles de religion lorsque les lumières du siècle et ma volonté avaient pour but de les faire disparaître tout à fait. Avec le catholicisme, j'arrivais bien plus sûrement à tous mes grands résultats. Dans l'intérieur, chez nous, en France, le grand nombre absorbait le petit et je me promettais de traiter celui-ci, les protestants, avec une telle égalité qu'il n'y aurait bientôt plus lieu à connaître la différence. Au dehors, le catholicisme conservait le pape et avec mon influence et nos forces en Italie, et dès lors, quelle influence, quel levier d'opinion sur le reste du monde. Donc, Napoléon a eu cette tentation politique de sortir de la Révolution en passant au protestantisme. Et ce n'est pas dérisoire comme rêverie, c'est ce qu'avaient eu quelques années auparavant des intellectuels complexes qui avaient inventé un culte tellement cérébral qu'il n'a jamais eu de fidèle. Il y avait juste les prêtres de ce culte. C'est ce qu'on appelle la théophilanthropie, qui est une sorte de protestantisme hyper spiritualiste, unitarien, ultralibéral, on peut le dire ici, ultralibéral, sans sauveur, sans messie, sans au-delà, dont les cultes étaient des leçons de morale. Bon, ça n'a eu aucun succès, mais on cherchait confusément à sortir du chaos révolutionnaire sans retomber dans le catholicisme traditionnel. La théophilanthropie avait fait long feu. Napoléon n'est pas passé à la réforme. Vous devez savoir, mais je passe vite, j'ai beaucoup travaillé sur cette question, que au début de la Troisième République, après un autre chaos, le chaos sedan, défaite et commune de Paris, de grands esprits, notamment les philosophes Renouvier, que les historiens et les philosophes ont redécouvert depuis une vingtaine d'années, ont eu le même espoir d'un passage de la France au protestantisme, non pas du tout pour des raisons religieuses, mais pour des raisons politiques. Ils pensaient qu'on ne pourrait asseoir la démocratie que dans un pays sorti du catholicisme. Comme aujourd'hui, je suis certain que certaines personnes bien intentionnées se demandent si un jour une vraie démocratie pourra s'installer en terre musulmane. Eh bien, il y a 120 ans de ça, de très bons esprits, des philosophes, se posaient la même question avec le catholicisme. Bon, la solution dans les deux cas du passage protestantiste n'a pas été retenue. Ce qu'a choisi Napoléon, c'est, vous le savez bien, bon, je vais passer vite parce que c'est tellement connu, il a choisi donc d'offrir à l'Église catholique le concordat. Et là, je vois bien que mes étudiants n'y comprennent pas grand-chose. Le concordat, nous sommes bien d'accord, il n'y a pas un mot des protestants. C'est un traité signé évidemment d'État à État avec Rome et le pape. Mais ce qu'a fait Napoléon contre le gré de Pie VII, et au moment de la restauration, d'ailleurs, le pape a tenté de revenir et de faire réécrire le concordat. Il a ajouté de son propre mouvement, avec les élus et ses juristes, dont Portalis, il a ajouté au concordat signé avec le pape ce que nous appelons tous donc les articles organiques, c'est-à-dire qui organisent, du culte catholique et des cultes protestants, luthériens et calvinistes. Et ça, aux yeux du pape, c'est proprement impensable. Le pape ne négocie que ce qui concerne les catholiques avec un État, et c'est le concordat. Et en ajoutant ce concordat, les articles organiques, en faisant un pacte qui a été donc qui est devenu la célèbre loi germinale de 1802. Hein. Le concordat est signé en 1801, mais ce que nous appelons le concordat, c'est cette loi française de 1802, la loi de Germinal. Napoléon, en faisant cela, donne un très bel exemple de gestion ordonnée du pluralisme religieux. Alors, c'est pas encore la laïcité, mais c'est déjà un vrai pluralisme, ce qui ne peut pas se trouver dans le concordat. Et vous le savez, c'est un pluralisme qui peut avancer, qui peut s'ouvrir, puisqu'en 1808, ce pluralisme qui est à trois cultes, catholique, luthérien, calviniste, s'élargit un quatrième, le culte juif. Il faut attendre 1831 pour que les rabbins soient payés par l'État, alors que les pasteurs et les prêtres l'étaient depuis 1802. Et ce fait de traiter dans un même texte fondamental, la loi de 1802 est une loi fondamentale, comme celle de 1905 pour nous aujourd'hui, de l'espace public, de mettre dans un même texte, sur un pied juridique d'égalité, les protestants et les catholiques, est une chose inouïe en France, puisque là, pour le coup, c'est la première fois qu'un texte va très au-delà dans sa générosité, dans son pluralisme organisé. Il va très au-delà de l'édit de Nantes, qui, vous le savez bien, restait jusqu'à ces articles organiques le modèle regretté des protestants. La seule chose, la petite mesquinerie, qui n'est pas sans renvoyer à ce que tu disais, James, sur le fait qu'il n'y avait pas de culte à Paris sous l'édit de Nantes. On a bien dit dans les articles organiques que le culte, évidemment, était libre partout. Et on a interdit les processions catholiques extérieures dans les villes où il y avait au moins deux cultes, pour éviter les provocations. Ceci dit, très vite, sous le Premier Empire, et ça s'est continué dans la monarchie restaurée, on a considéré qu'une ville comme Lyon, par exemple, n'était pas une ville à deux cultes, parce qu'on avait installé le chef-lieu du consistoire protestant de Lyon en banlieue, pour qu'il ne soit pas dans Lyon. Et donc, officiellement, on considérait que les processions pouvaient se dérouler à Lyon, puisque le chef-lieu du consistoire n'était pas dans la ville même, mais était en banlieue. Et ça, c'est des petites arguties juridiques qui montrent combien le pluralisme était encore difficile à bâtir. Ceci dit, dans le texte de loi fondamentale de 1802, il est bâti, et les protestants en sont, pour un siècle, très satisfaits. Je passe, parce qu'il y a toujours, vous l'avez compris, des demi-victoires et des demi-défaites. Les protestants perdent en 1802 leur organisation presbytéro-synodale, vous le savez. Et c'est vrai que la durée d'interruption des synodes au XIXe siècle, elle a été plus longue que la durée d'interruption des synodes sous Louis XIV. Puisque sous Louis XIV, on s'est arrêté en 1659 et on a repris, mais clandestinement, dans les Cévennes, en 1715. Alors que sous Napoléon et ses successeurs, de 1802, il a fallu attendre 1872 pour que se tienne d'ailleurs le synode national le plus calamiteux de l'histoire du protestantisme, puisque ça a été le synode du schisme entre ceux qui se disaient ou étaient dits orthodoxes et les libéraux. Mais au moins, en dépit de cette déception, le protestantisme a désormais, et nous le voyons bien ici, pignon sur rue, puisqu'il peut maintenant reconstruire ses facultés de théologie, former ses pasteurs, publier ses livres, bâtir ses temples. C'est là que je dirais juste une chose en hommage à ma ville, Nîmes. Il s'agissait de choisir une ville pour y établir une faculté de théologie réformée de l'intérieur, pour éviter aux futurs pasteurs l'exil depuis maintenant des dizaines d'années à Lausanne, à Genève. Et Napoléon a refusé de donner la fac de théo protestante à Nîmes, qui aurait pu démarrer, dès 1809, son destin universitaire qu'elle a aujourd'hui, qui est un destin modeste. Pourquoi l'a-t-il refusé à Nîmes? Parce qu'il a trouvé qu'à Nîmes, il y avait trop de protestants, trop de catholiques, et que les uns les autres avaient l'esprit trop chaud. Alors il a choisi... Il y a des gens de Montauban dans la salle? Alors il a choisi, je dirais... une obscure et sereine bourgade du sud-ouest. Vous savez, la mollesse du sud-ouest, comme dirait Martine Aubry peut-être. La mollesse du sud-ouest. Et il a puni. Il avait puni doublement Nîmes, parce qu'il a refusé aussi de donner un évêché à Nîmes. Pendant 10 ans, le diocèse de Nîmes était fondu au diocèse d'Avignon. Et l'évêque était à Avignon. Parce que Napoléon avait le sentiment, et il n'avait pas tort, la Terreur blanche allait le montrer, que Nîmes était une ville de frontières religieuses chaudes et que la faculté de théologie aurait été un signe trop fort donné en faveur des protestants. Ceci dit, dans les protestants pignon sur rue, je voudrais vous dire ce que j'ai découvert tardivement en écrivant un livre sur l'histoire des temples et des églises dans le sud de la France. J'ai découvert brutalement que le grand temple de Nîmes, comme l'oratoire du Louvre, n'était pas un temple protestant. Et que j'avais passé toute ma vie, ma formation, mes émotions de jeune catéchumène, tout ce que vous voudrez, dans un lieu qui n'avait rien de protestant, qui avait cette splendeur, ces ors, cette débauche, ce baroque catholique et de contre-réforme. Et je ne savais pas, et les gens du petit temple à Nîmes, c'est pareil, nous ne savions pas, sauf les gens qui avaient des lettres, nous ne savions pas que nous vivions la foi protestante dans des bâtisses, ça a été rappelé tout à l'heure, bâties, construites par la contre-réforme pour convertir les protestants, pour enfermer. Le petit temple à Nîmes, c'est l'ancien couvent, je crois, des Ursulines, qui avait été créé pour y enfermer, mais au sens propre de prison dorée, les jeunes filles des élites protestantes nîmoises et les convertir en faire des religieuses, ce qui avait d'ailleurs assez bien marché. Et ça a été dit, je crois que c'est pas Philippe Runshine qui l'a rappelé, par une sorte de revanche et de retournement de l'histoire, les lieux mêmes de l'asservissement par la contre-réforme conquérante, notamment dans le Midi, du protestantisme, devenaient les lieux monumentaux du culte retrouvé. Et donc à Nîmes, si vous voulez voir un temple protestant construit selon les critères architecturaux, si l'année, ça a été beaucoup travaillé cette question par Bernard Raymond, très beau livre sur l'architecture protestante, bien à Nîmes, il faut aller au temple de, je crois que ça s'appelle l'Oratoire justement à Nîmes, qui est un temple des années 1860, quelque chose comme ça. Et dans tout le Midi de la France, les temples sont d'anciennes chapelles conventuelles. C'est le cas de l'Oratoire, et ça ressemble à tout, sauf à un temple protestant. D'ailleurs, tu as parlé tout à l'heure de cœur ouvert, de cœur fermé. J'ai travaillé sur ça. Vous savez que dans les cathédrales avant, le cœur était fermé. En Espagne, dans l'Espagne légendaire du catholicisme, c'est encore le cas, c'est-à-dire c'est fermé, c'est pas par du bois. Il y a des sculptures de pierre et la messe se déroule derrière et il n'y a rien à voir ni à entendre, il y a une séparation complète. Et il a même été prouvé qu'on construisait les cathédrales d'abord par le chœur, peu importe la nef c'est le peuple chrétien. Et il y a une cathédrale en France où ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu l'argent, ils n'ont pas eu le temps de finir et il ne reste que le chœur. C'est celle de Narbonne, qui est une très belle cathédrale, qui aurait dû être une des plus grandes de France. Ils avaient vu trop grand. Ils ont commencé par le chœur, et puis ils en sont restés au chœur. Il n'y a pas de nef. Et c'est typique d'une époque du christianisme, qui est antérieure à la Réforme, où il y a rupture radicale, physique, entre le peuple chrétien et les clercs. Bon, le protestantisme, vous le savez, c'est le sacerdoce universel, j'insiste pas. Il me reste encore 2 minutes, James. 10. Tu es généreux et imprudent. Bien. Je signale aussi qu'à côté de cette victoire juridique, architecturale, monumentale, vous savez que les protestants, par ailleurs, ont fini par construire beaucoup de temples. C'est-à-dire que là où la contre-réforme avait échoué, il n'y avait pas d'église libre, donc il a fallu construire des temples. C'est pour ça que les Cévennes se sont couvertes de temples monumentaux. Et il faudrait opposer terme à terme l'oratoire du Louvre, par exemple, et le temple d'Anduze, ou de Saint-Hippolyte du Fort, ou de La Salle, qui sont des temples neufs, construits de toutes pièces, et dont le plan est radicalement différent du plan des anciennes églises, que sont l'oratoire ou le grand temple. Vous savez que les protestants, au XVIe siècle, avaient eu la manie architecturale, qui a un sens théologique fort, de faire des plans, ce qu'on appelle des plans centrés, c'est-à-dire des carrés, des ellipses, des hémicycles, ou des cercles complets. Et si vous regardez un certain nombre de temples, de vrais temples protestants construits au XIXe, il y a des cercles très purs. Il y a des dodécagones, c'est ça? Et à Ganges, je vous le signale, c'est unique en Europe, je crois. Je ne sais pas pourquoi, personne ne sait pourquoi. Il y a un temple à Ganges qui est heptagonal. C'est-à-dire une figure du cercle imparfait en 7 côtés. L'idée, donc, que le plan centré est celui qui correspond le mieux au sacerdoce universel, plus que D'ailleurs, là, ce soir, on est dans une sorte de configuration en plan un peu centré. L'homme, hein? En quadrangle, c'est le mot de Bernard Raymond pour définir l'architecture même de la Réforme. Cette victoire protestante, je vous le signale d'un mot, parce que là on est dans une histoire des idées qui a un peu vieilli, mais elle a été marquée l'année même où Chateaubriand marque évidemment un point majeur pour le christianisme, avec le génie christianisme, l'Institut lance un concours provocateur. Il demande aux intellectuels de réfléchir à ce qu'a été l'apport de la Réformation à la civilisation. Et c'est un Français, Charles de Villers, qui gagne l'essai sur l'esprit et l'influence de la Réformation de Luther en 1802. Et je voudrais juste vous citer une phrase de Villers, parce qu'elle est très belle, très romantique. Je crois que Novalis a vu la même chose, mais au profit de l'Allemagne. Voici ce qu'écrit Villers. « Genève, point imperceptible sur la carte physique de l'Europe, mais d'une très grande importance sur celle de l'Europe morale. » Je trouve que c'est beau ça, hein? Genève, un petit canton, mais dans l'histoire intellectuelle de l'Europe, quelque chose de décisif. Et c'est donc écrit par un non-protestant, mais écrit donc à la gloire d'un protestantiste qui rentre donc armé et avec un sentiment de légitimité, de réussite dans cette France impériale. Le prix à payer là aussi, c'est que, à tort ou à raison, il y a eu en France, pour l'opinion publique, si on peut parler d'opinion publique à cette époque-là, confusion entre les protestants et l'Empire. De même qu'il y avait eu confusion entre les protestants et la Révolution française. Alors, il semble que c'est pas été le cas aussi net. Bien sûr, il y a toute une série de fonctionnaires qui sont des fonctionnaires d'Empire, qui viennent des élites protestantes, mais c'est beaucoup moins fort, beaucoup moins marqué que sous la Troisième République. Ceci dit, il y a déjà un élément de porosité entre les élites protestantes issues des Lumières et les nouvelles fonctions qu'offre l'État impérial. Ce qui est le plus important pour la suite, c'est ce soupçon. Je ne vais pas parler de haine contre les protestants, je vais parler d'un soupçon tenace. Soupçon donc que les protestants se sont mis au service de l'État impérial napoléonien, et que Napoléon les en a récompensés. Et cela explique, au moment de la chute, des deux chutes de Napoléon, une sorte de retour du refoulé et une explosion de haine que je trouve vraiment intéressante parce que c'est une haine très moderne. Si je peux faire un autre parallèle, on a beaucoup dit après la chute du communisme à l'Est, on a beaucoup, je me souviens de la Hongrie en particulier, il y a eu un regain d'antisémitisme dans la Hongrie des années 1990 parce que, à tort ou à raison, l'opinion publique hongroise accusait les Juifs hongrois, ceux qui avaient survécu la Shoah et ceux qui n'étaient pas partis, ils les avaient accusés d'avoir été des fonctionnaires de la dictature communiste. Et toute proportion gardée, c'est un peu le même type de reproche qui est fait aux protestants en 1815, au moment où l'Empire s'effondre. On accuse les protestants d'avoir été les meilleurs serviteurs du pouvoir depuis 1789 jusqu'à la chute de Napoléon. Et pour les masses et les intellectuels catholiques de combat, il y a une filiation directe entre la Révolution et l'Empire. Et les protestants sont donc suspects d'avoir servi ces régimes anti-catholiques qu'auraient été la Révolution française et puis le Premier Empire. Et comme en outre vous avez pendant quelques semaines soit de l'impuissance, soit de l'abstention de l'État central, il y a un vide politique en 1815 qui explique, vous le savez sans doute, donc cette terreur blanche à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Cette terreur blanche, elle est intéressante parce que vous avez, si je puis dire, trois haines qui s'additionnent, qui s'emboîtent. Vous avez, pour faire vite, le mot haine est un peu fort. Enfin, il y a eu quand même quelques dizaines de morts, on ne saura jamais le chiffre exact. Vous avez la haine, je dirais, religieuse contre les protestants. Vous avez la haine politique contre les serviteurs réels ou supposés de l'État moderne anticlérical, notamment l'État impérial. Et puis, troisième haine, une haine de classe. Vous avez la haine du peuple du Midi, catholique contre la bourgeoisie protestante. Et c'est vrai à Nîmes, c'est vrai à Montauban, c'est vrai à Montpellier, c'est vrai à Uzès, c'est vrai dans tout le Midi, il y a des différences de statut entre protestants et catholiques, et même s'il y a une paysannerie protestante pauvre dans les Cévennes, il y a dans les villes une bourgeoisie protestante qui, comme toujours dans la bourgeoisie, a adhéré aux idées modernes, a adhéré au libéralisme, au sens le plus à gauche du terme. Et vous avez en face de ce libéralisme protestant bourgeois un vrai populisme catholique, vraiment populaire, une haine vraiment populaire, qui frappe chez les protestants, à la fois les protestants, les serviteurs de l'Empire et les bourgeois, les possédants. Et lorsque haine religieuse, haine politique et haine de classe se mêlent, l'explosion est terrible, et donc je ne décris pas la terreur blanche, je rappelle qu'il y a eu des dizaines de morts, des scènes de pogroms, des scènes de lynchage, des viols collectifs en pleine rue. Alors là, c'est la quatrième dimension. Un peu comme les femmes tendues à la libération lorsqu'on s'en prend en outre au corps féminin de la minorité détestée. Des scènes d'ailleurs qui avaient eu déjà des précédents en 1704, à la fin de la guerre des Camisards, lorsque la guerre des Camisards a commencé à se gauchir, à dégénérer en guerre civile, non plus entre protestants cévenols contre soldats du roi, mais entre foules civiles protestante contre foule civile catholique. Il a même été montré sur des études précises dans d'obscurs villages du Gard catholique. Ils ne sont pas obscurs parce que catholiques, mais c'est parce que c'est Saint-Florent-sur-Ozonnée, si vous connaissez, au nord d'Alès, Barjac, etc. Il a été montré la continuité, c'est banal, généalogique, entre les troupes catholiques de la guerre civile de 1704 et les chouans de 1793 et les animateurs de la terreur blanche de 1815. Un exemple que j'ai oublié de vous donner, que je rajoute, qui montre tout de même la différence d'attitude par rapport à l'Empire. Vous savez que l'Empire très vite a eu besoin de recruter sans cesse plus de soldats pour faire les guerres. Eh bien, dans le massif central catholique, la jeunesse catholique a massivement refusé les levées en masse, et il y a eu une sorte de chouannerie perlée dans tout l'Aveyron, etc. Alors que les régions rurales protestantes ont répondu positivement à la levée en masse. Ce qui fait que André Chanson, en écrivant ce roman magnifique, Roule bandit, a fait quasiment, je vous le signale, un contresens historique. La terre des réfractaires à l'État et à l'armée, ce ne sont pas les Cévennes protestantes. Il n'y a pas de déserteurs, il n'y a pas d'insoumis sous Napoléon. Ils servent l'État. La terre des réfractaires, des déserteurs, des insoumis, c'est le massif central blanc. C'est le Larzac, c'est le Cosméjean, c'est le Sauveterre, qui sont donc, j'y reviens, à l'UNESCO, avec leurs voisins cévenols, avec lesquels ils ne partagent rien, sinon, semble-t-il, quelques troupeaux de brebis. Dernière chose à dire, et j'en arrive à ma conclusion. Vous voyez, ce que j'ai essayé de parcourir avec vous, là, entre 1787 et 1815, c'est une séquence. Une séquence avec des moments de gloire, j'ai cité Rabault-Saint-Étienne, etc. Et puis, des prix à payer. Il n'est jamais facile, il n'est jamais simple, il n'est jamais innocent, surtout, pour une minorité, de réussir trop vite et trop fort. On m'a signalé récemment, je vous le dis parce que j'ai trouvé ça extraordinaire, une pétition signée par des scientifiques, alors je ne sais pas à quel niveau, proposant un moratoire sur l'octroi de prix Nobel à des juifs, en disant il faudrait rééquilibrer les choses parce qu'il y a trop de prix Nobel accordés à des juifs. Et d'ailleurs, ce n'est pas bon pour les juifs parce qu'ils vont faire ressortir une sorte de haine. Vous savez, quand la haine des majorités se mélange à de la jalousie face à la réussite insolente des minorités. Et cette haine mêlée de jalousie face à la réussite des minorités, les protestants l'ont connue depuis la Révolution jusqu'à... Non, maintenant, c'est complètement fini. Régulièrement, enfin, moins régulièrement qu'avant, vous savez ce qu'on appelle les marronniers dans le Nouvel Obs, l'Express, on vous signale le pouvoir protestant. Alors, on cite Monod, Schlumberger, Hermès, Dumas, etc. Mais c'est, je dirais, c'est la fin, l'ultime retombée d'un regard où l'admiration, sans doute, se mêle de pas mal de jalousie face à des réussites trop impertinentes de ces minorités jadis confinées dans les carrières ou dans les déserts. Qu'est-ce qui s'est passé et qui va se renouveler? Je vais citer, puis je terminerai sur trois autres exemples, trois autres séquences. Vous avez, à chaque fois qu'il y a eu dans l'histoire de France, puis la Révolution, un État que je dirais à la fois modernisateur et organisateur. Bon, je ne vais pas citer Auguste Comte, parce que Comte n'appartient pas du tout à cette famille-là d'esprit, mais c'est un peu ça. Chaque fois que vous avez un État qui veut moderniser la France, la réformer, sans jouer sur les mots, mais en même temps la réformer de manière ordonnée, organisée, pas dans la révolution à tout cran, pas dans la surenchère millénariste des lendemains qui chantent, les protestants jouent un rôle essentiel parce qu'ils se sentent profondément à leur place dans cette séquence à la fois modernisatrice et organisatrice, et que par ailleurs, ils en sont à chaque fois parmi les premiers bénéficiaires. Il est clair que la laïcité française s'est construite avec l'appui des protestants, mais que les premiers bénéficiaires de cette laïcité ou de ce pluralisme des cultes avec Napoléon ont été les protestants, les seconds bénéficiaires étant les juifs. Alors, quelles sont les autres séquences où l'on observe, et puis je vais en terminer là, la même histoire, c'est-à-dire une entrée forte en service de l'État des protestants, des réussites éclatantes, et puis dans l'opinion publique, des rancœurs, des jalousies. Il n'y a pas de secret, c'est la monarchie de Juillet. Guizot, bien sûr, mais je voudrais attirer votre attention un instant sur le fait que la monarchie de Juillet, en 1845, elle voit paraître un livre que mes collègues spécialistes de l'antisémitisme tiennent pour le premier pamphlet antisémite moderne paru en France et peut-être en Europe, avec un titre bien agressif, « Les Juifs, rois de l'époque ». Il se trouve, ça il ne faut pas le dire dans mon université parce que ça choque mes collègues, mais il se trouve que l'auteur de ce pamphlet est un disciple de Fourier et c'est un authentique socialiste. Et qui dénonce. Mais en fait, j'ai lu ce pamphlet qui a été vraiment un succès, et c'est un livre très digne et très sérieux. Le titre est juste indigne. En vérité, ce pamphlet n'est pas un pamphlet contre les Juifs, en dépit du titre. L'auteur a été piégé, vous savez, par la vulgarité du vocabulaire juif usurier. En fait, la cible de ce pamphlet paru en 1845, c'est-à-dire à l'époque où Guizot domine la France, c'est un pamphlet contre le capitalisme, contre la révolution industrielle, contre le malheur naissant de la classe ouvrière naissante. Et il y a des choses très belles dans ce pamphlet, lorsqu'il dénonce la traite des blancs, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme. Simplement, l'auteur croit avoir trouvé la source du mal, et la source du mal, ce n'est pas les juifs, c'est le protestantisme. Et il dénonce pêle-mêle Genève, Amsterdam et Boston. Et il dit que les financiers puritains de Boston sont bien pires que les financiers juifs de Francfort, comprend Rothschild. Voilà, donc toujours, voyez, ce même mouvement, cette réussite éclatante, cette noce, cette lune de miel avec un État organisateur et modernisateur, et le prix à payer dans la jalousie de certains secteurs de l'opinion publique. Et bien sûr, le troisième exemple, le dernier, mais là je n'insiste pas, c'est évidemment la Troisième République, qui voit alors là, à nouveau, bon, je n'insiste pas sur le fait que c'est un régime laïcisateur, modernisateur, législateur et organisateur de premier ordre, et que les protestants y jouent un rôle à certains moments complètement, je dirais, hors de proportion avec la réalité de leurs effectifs dans la vie sociale et même économique du temps. La grande force de la Troisième République qui a manqué en partie à la monarchie de Juillet et à l'Empire et encore plus à la Révolution française, c'est le temps que la France s'est donné de se réformer en profondeur. Et sans doute, et je terminerai là, s'il y a eu un moment, je termine vite parce que c'était beaucoup étudié, s'il y a eu un moment dans l'histoire de la réforme en France, depuis les années 1530 jusqu'à la conquête évangélique à laquelle nous assistons depuis quelques années, un moment où les protestants ont réussi à donner une odeur, comme disait Maurras, une coloration, une veine protestante à la France, c'est pas sous Napoléon, en dépit de l'oratoire, mais c'est évidemment sous la Troisième République, et je vous renvoie à ce que disait Ferry à l'aurore de cette République en 1879. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Voilà, savoure bien ton bonheur, Patrick, car les pasteurs, en principe, ne sont jamais applaudis après leur prédication, aussi brillante soit-elle. Pour ne pas te frustrer, sache qu'il va y avoir tout de même un moment d'offrande. C'est une offrande libre. Vous avez vu qu'il y a des objets cultuels non identifiés. C'est pour vous permettre de participer aux frais d'organisation. Et puisque nous en sommes à l'histoire, je vous explique un peu comment les choses sont vécues à l'oratoire. Tout d'abord en vous disant que le premier pasteur de l'oratoire, Paul-Henri Marron, logeait place Vendôme, qui est également le lieu où était la Société d'histoire du protestantisme français, dont tu es membre associé. Ceci explique que, peut-être, lorsque l'offrande était organisée pendant le culte, elle conduisait souvent les maris à retourner à la sacristie pour récupérer et racheter tous les bijoux que leurs épouses avaient déposés dans les aumônières, tellement elles avaient été émues par les discours des pasteurs. C'est maintenant le moment pour vous de vous dépouiller et de pouvoir participer aux frais d'organisation. Nous nous donnons rendez-vous demain. L'exposition sera visible à partir de midi, comme chaque jour pendant un mois. Et à partir de 16h, deux tables rondes seront organisées. La première sur le pluralisme théologique dans le protestantisme et la seconde sur la présence des protestants dans la cité à partir de 16h et une soirée festive avec l'évangile de Jean dit par Gérard Rouzier, des psaumes lus par Marie-Christine Barrault accompagnés au violon par Igal Chamir. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.